Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité. Bonjour et bienvenue sur Radio TerraZen. Donc vous allez écouter une émission sur bien-être au quotidien et ce soir nous allons aborder donc les bases de l'Ayurveda. Si j'ose vous parler de l'Ayurveda aujourd'hui, donc l'Ayurveda est une pratique traditionnelle de l'Inde, ancestrale de l'Inde. C'est la médecine officielle de l'Inde. Et la médecine reconnue aussi dans plusieurs pays, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc si j'ose parler de l'Ayurveda, c'est parce que je suis restée donc 5 années hein, en Inde, dans une clinique ayurvédique, et j'ai suivi un médecin ayurvédique qui m'a enseigné au quotidien, et qui, là je suis revenue en France depuis 2 ans, et qui continue à m'envoyer des enseignements, des textes. Et j'étais encore avec lui ce matin. Alors, avant de commencer l'émission, j'ai envie de vous chanter un mantra. Un mantra de l'étude. Avant de commencer une conférence, un échange, très souvent en Inde, eh bien, nous commençons par un mantra. Alors, le mantra que je vais vous chanter ce soir, c'est le mantra de l'étude dédié à Ganesh. Ganesh qui est le dieu de l'étude. Hein, vous voyez, c'est le petit éléphant. Alors, si vous le connaissez, bien sûr, vous pouvez chanter avec moi. Hari Om, Sri Ganeshaya Namaha. Hari Om. Shri Ganeshaya Namaha. Om Sahana Vavatu, Sahana Bhunaktu, Saha Viryam Karavavahai, Tejasvinavaditamastu Ma Vidvisavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Donc c'est un mantra qui demande que nous initions nos forces, notre énergie pour se tourner vers l'étude et qu'il n'y ait pas de conflit entre nous, qu'on soit dans la paix. Et Shanti, ça veut dire la paix. Donc revenons à l'Ayurveda. Alors peut-être commençons par l'étymologie du mot Ayurveda. Donc, ça vient donc bien sûr du sanskrit, hein, la langue sacrée de l'Inde, dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc, Ayur en sanskrit, ça veut dire vie. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, un mot sanskrit a toujours plusieurs significations. Donc, Ayur signifie vie, ça signifie force vitale, ça signifie élan vital. Ça signifie aussi longévité. Et Veda, ce sont les connaissances. Et bien sûr, les Vedas, c'est les textes sacrés de l'Inde. Donc, l'Ayurveda, c'est la science de la vie. Hein, c'est connaissance de la vie, connaissance de la longévité. Mais science de la vie, il faut prendre ça au sens large. Hein, c'est pas juste une science restrictive. C'est bien au-delà de la pratique médicale. C'est avant tout une philosophie et un art de vivre. Donc, il faut savoir que l'Ayurveda prend en compte en fait l'homme dans sa globalité. Elle considère que l'être humain n'est pas seulement un corps physique, mais avant tout un être qui vibre de sentiments, de passions, de créativité, un être affectif, un être mental, avec ses pensées, sa raison, son intelligence, un être psychique et spirituel, en quête de l'invisible, de l'imperceptible, du conscient, de l'inconscient. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'Ayurveda, c'est-à-dire que l'Ayurveda voit l'homme dans sa globalité et ne va jamais parler de maladie. Hein, on va parler d'équilibre dans l'Ayurveda, on va parler de santé toujours, de bien-être, voilà. Mais on n'évoque pas la maladie. Et d'ailleurs en Inde, j'ai fait venir plusieurs fois des Européens et quelquefois les Européens voulaient savoir le Swami donne des plantes hein, pour faire l'équilibre justement, l'harmonie hein, au niveau de chaque être humain. Et les personnes voulaient savoir, et ça c'est pour quelle maladie? Qu'est-ce que j'ai comme maladie? Et le Swami disait, non, moi je ne veux pas parler comme ça. Ce que je vous ai donné, c'est pour vous équilibrer, pour équilibrer vos énergies. Hein, c'est ce dont je vais parler là. Aujourd'hui, ça va être de parler donc des énergies et de parler aussi des doshas, de la constitution. Alors, je vous ai dit que Ayurveda, Veda, ce sont les textes sacrés de l'Inde, les textes fondateurs de la culture indienne. Il y a plusieurs Vedas qui vont parler, qui ont été récités, qui ont été chantés, qui ont été transmis. Donc l'Ayurveda, va être transmis aussi par des chants. Et on dit que l'Ayurveda vient des sages hein, de l'Inde. Il vient des sages de l'Inde, comme si les sages de l'Inde avaient été enseignés par des puissances qui les dépassaient un peu, par des dieux. Hein. En tout cas, c'est les croyances. Mais ce qu'il faut voir dans l'Ayurveda, c'est qu'il y a ce côté spirituel de l'Ayurveda, c'est vrai, mais en même temps, il y a des textes. Il y a des textes très importants qui rassemblent tous les slokas, c'est-à-dire tous les textes chantés. Et à côté de la spiritualité, à côté des mantras, à côté des croyances, eh bien, il y a une rationalité. Et par exemple, pour devenir un médecin ayurvédique, eh bien, il faut une douzaine d'années. Pour les médecins qui passent par l'université. Hein, et en Inde, il y a des médecins qui passent par l'université, qui sont médecins ayurvédiques. Et à côté de ça, il y a des médecins ayurvédiques qui ont été enseignés par leur maître, hein, ce qui était le cas du médecin ayurvédique avec lequel j'étais. Lui, ça faisait 35 ans, 40 ans qu'il était dans l'Ayurveda et il avait suivi plusieurs maîtres. Des gens, par exemple, il a passé par un certain moment des moments avec des personnes qui étaient passionnés par tout ce qui concerne les plantes, hein, comment se soigner par les plantes. Il y a passé aussi des moments avec des gens qui étaient dans la spiritualité, auprès de sages de l'Himalaya. Donc il connaissait aussi l'homéopathie, Siddha médecine. Donc il a des connaissances toujours, hein, parce que je suis toujours en lien avec lui. Et quand je vais en février en Inde, et je vais amener un groupe en fait dans sa clinique ayurvédique, et il va nous enseigner l'ayurveda, il va se mettre au niveau des personnes. Et d'ailleurs en février, ça sera une émission à ne pas rater, parce que nous allons essayer de faire une émission de l'Inde, du Kerala, et je laisserai la parole à Swami. Alors Swami, je vous l'ai expliqué la dernière fois, c'est un être spirituel. pour qu'il vous donne lui aussi sa vision et ses connaissances de l'Ayurveda. Donc je disais, je reviens donc au texte, au Veda, hein, Ayurveda, au Veda. Donc il y a la triade des anciens, hein, qui est constituée par trois textes majeurs, hein, c'est pour ça qu'on parle de la triade des anciens. Donc il y a le Charaka Samhita, le Shrushruta Samhita, l'Ashtanga Hridaya. Alors le Charaka Samhita, c'est la médecine générale. Shrushruta Samhita, c'est plus la chirurgie. Et l'Ashtanga Hridaya, c'est en fait une synthèse. Hein, une synthèse de ces deux œuvres un peu vraiment colossales. Et ces textes qui ont été écrits donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, sauf pour le dernier texte qui est au 5e siècle après Jésus-Christ. Donc ce sont les textes majeurs de l'Ayurveda. Et je m'y réfère de temps en temps. En tout cas, il y a des connaissances très précises, hein, très très précises sur par exemple les traitements à suivre, sur les plantes, sur la philosophie, sur les mantras, c'est vraiment sur l'astrologie aussi, c'est très très vaste. Et puis il y a d'autres textes qui sont venus après JC. Alors ce qui est important dans l'Ayurveda, donc vous avez compris que c'était un art de vivre, que c'était une philosophie. C'est une, comme j'ai dit la dernière fois, donc c'est la médecine officielle de l'Inde, mais ce que j'avais dit la dernière fois, c'était une médecine préventive. C'est-à-dire un bon médecin, et je le répète, un bon médecin ayurvédique n'a pas de personne en souffrance. C'est un médecin qui va réussir par un style de vie, par à faire en sorte que les gens eh bien, soient... n'est pas besoin de voir de médecin ayurvédique. Hein, donc ça, c'est très, très, très important. Alors, autrement, il y a 8 branches dans l'Ayurveda. Et quand j'étais dans la clinique ayurvédique, dans l'ashram, parce que une fois, j'ai vu un commentaire en disant qu'un ashram n'avait pas de clinique ayurvédique, c'est complètement faux. Les ashrams, c'est des comités de vie, en Inde, quelquefois en général spirituel, avec de toute façon l'Inde c'est spirituel, et dans ces ashrams il peut y avoir des cliniques ayurvédiques. Dans l'ashram d'Ama par exemple, il y a une très grande clinique ayurvédique. Dans l'ashram où je suis allée, où on m'a en fait, quand on m'a donné l'adresse de l'ashram où je vais emmener des gens là, en février, où je suis restée 5 ans, on m'a dit que c'était le lieu le plus traditionnel et le plus authentique de la médecine ayurvédique et du yoga. Donc, dans ce lieu vraiment de cet ashram dans le Kerala, à côté d'un petit village qui s'appelle Davanakad, à côté de Cochin, eh bien, il y a, on peut retrouver les 8 branches de l'Ayurveda. Parce qu'il y a 8 branches dans l'Ayurveda. Donc, il y a d'abord la médecine générale, hein, Kaya, Chikitsa. Après, il y a la chirurgie, Shalya. Puis, il y a la médecine ORL, l'ophtalmologie. Tout ce qui concerne les parties du corps au-dessus des clavicules. Shalakya, Chikitsa. Et puis après, il y a Agada, Chikitsa, la toxicologie. Et effectivement, l'ashram, on a vu des gens qui étaient en fait... addictif en fait à certains produits, que ce soit des drogues, que ce soit tabac aussi, et qui par le séjour à l'ashram, par le séjour dans la clinique ayurvédique, réussissaient à sortir de leur dépendance. Il y a aussi la psychiatrie, et effectivement à l'ashram il y avait des personnes qui, alors on n'en prenait pas, le swami n'en prenait pas plusieurs à chaque fois, il y avait peut-être 2 personnes à chaque fois qui avaient quelques troubles psychiatriques et qui étaient insérées en fait dans la vie au quotidien, et il y avait aussi de très très bons résultats. Donc bien sûr la pédiatrie, la gériatrie, les thérapies de rajeunissement, donc ça c'est très très important dans l'Ayurveda aussi, sciences de l'énergie, et puis toutes les techniques de nettoyage, de purification, et ce qu'on appelle les panchakarma. Donc ça, je ne veux pas aborder aujourd'hui, hein, l'Ayurveda c'est très vaste, hein. Aujourd'hui en une heure, j'ai juste parlé de quelques petites choses sur l'Ayurveda. J'ai dit les bases, mais c'est vraiment... je voudrais vous aborder la philosophie de base, hein, c'est-à-dire les cinq éléments que nous allons voir tout à l'heure. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'Ayurveda de nos jours est pratiqué un peu dans nombreux pays. L'Ayurveda est pratiqué par exemple en Asie, au Sri Lanka, au Népal, au Bhoutan, à l'île Maurice, dans les pays de l'Est, comme en Hongrie, en Roumanie, en Russie. Et on peut voir en Angleterre, bien sûr, l'Angleterre a vécu, a une influence avec l'Inde, comme ils l'ont colonisée. Eh bien, on peut voir qu'à Londres, à l'Université de Londres, l'Ayurveda est enseignée comme une médecine alternative et peut être pratiquée légalement en Inde, en Angleterre. Et donc, pendant le temps de la colonisation anglaise de l'Inde, l'Ayurveda est devenue une médecine illégale, mais en fait, l'Ayurveda continuait à être pratiquée dans les coins les plus reculés du pays. Donc, on voit que l'Ayurveda a toujours, toujours existé. Alors, en France, on n'a pas le droit de pratiquer la médecine ayurvédique, mais on a le droit de pratiquer l'Ayurveda comme bien-être, comme technique de bien-être. Et c'est ce que je fais. Alors, maintenant, nous allons aborder les concepts de base de l'Ayurveda. Alors, ce que je voudrais vous dire déjà, si vous allez rencontrer une personne qui fait des massages ayurvédiques, l'important, c'est que la personne vous fasse un bilan. Si la personne ne vous fait pas de bilan et ne vous parle pas de votre constitution, elle ne vous fait pas un massage ayurvédique. Elle fait un massage de bien-être, elle peut faire un très très bon massage, mais ce n'est pas un massage ayurvédique. Parce que le but du massage ayurvédique, c'est de rééquilibrer la personne. C'est de rééquilibrer ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est-à-dire les doshas. Et la dernière fois, on m'a posé des questions. On m'a dit, oui, c'était intéressant ce que vous avez dit, merci, hein, la dernière fois. Mais on aimerait que vous parliez plus de la constitution de l'Ayurveda, des doshas, etc. Alors, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible parce que c'est quand même... je vais essayer d'être le plus clair, le plus simple, d'aller à l'essentiel. Je vais pouvoir y revenir. Hein. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Je vous demande, si vous avez des questions, merci de me les envoyer par mail. Hein. Vous trouverez mon mail facilement. Vous prenez Catherine Beau, Ayurveda, Yoga Angers. Et vous allez me trouver très facilement. Hein. J'arrive en premier si vous tapez Yoga Angers. Et donc, n'hésitez pas à me poser des questions et je reviendrai dans les prochaines émissions. Donc, ce qui est important dans l'Ayurveda, c'est... Donc, ça, c'est la base, hein, le socle de l'Ayurveda. La théorie des cinq éléments qu'on appelle aussi, donc en sanskrit, hein, la langue sacrée de l'Inde, la langue de l'étude, les panchamahabhutas. Donc, les panchamahabhutas... Ce sont donc les cinq éléments. Alors, de voir vraiment les cinq éléments comme l'eau, la rivière, etc., ce sont cinq énergies. Il faut voir ça de façon globale. C'est des notions beaucoup plus larges. Et en Ayurveda, qui existe donc depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, donc ces notions d'énergie existaient déjà. Ah, donc, ces grandes énergies sont d'abord l'éther, puis l'air, comme si elles se transformaient l'une à l'autre, quoi, en fait, par condensation, quelquefois. Donc, l'air, après le feu, l'eau et la terre. Donc, ces cinq éléments sont essentiels. pour comprendre après les constitutions en Ayurveda et les doshas. Hein, les doshas, je vais vous expliquer ce que c'est, mais ça vient des cinq éléments. Alors, je vous ai dit donc les cinq éléments. Donc, vous avez l'éther. Donc, l'éther, ça correspond en sanskrit à akasha, c'est-à-dire c'est tout ce qui est espace, tout ce qui est vide, tout ce qui est léger, tout ce qui est libre, tout ce qui est transparent, clair. Pas de limite finie, expansif, ce qui se répand partout, hein, ce qui est omniprésent. C'est l'élément, peut-être l'éther, le plus difficile à décrire parce qu'il n'y a pas facilement de comparaison. Après, vous avez l'air, hein, vata. L'air, en fait, c'est vayu en sanskrit. L'air, en fait, c'est ce qui est mobile, dynamique, hein, ce qui est sec, ce qui est en mouvement, ce qui est clair, ce qui est subtil, peut-être moins qu'éther, mais qui est déjà subtil, ce qui est frais. Hein. L'air en tant qu'élément naturel. L'air de notre corps aussi, parce que tous ces éléments naturels, toutes ces énergies, nous allons les retrouver dans notre corps. Et ça, ça va être important aussi. Puis après, vous avez Agni, qui est le feu. Donc le feu, c'est rayonnant, c'est chaud, c'est sec, c'est intense, c'est lumineux, c'est fougueux. C'est dynamique. Son mouvement va vers le haut. Hein, il a la capacité de transformer. Puis après, vous avez Jala, qui est l'eau. L'eau, c'est la fluidité. Le mouvement va vers le bas. C'est fuyant, c'est adaptable. C'est frais, c'est humide, c'est lourd, c'est rond, c'est tendre, c'est doux. Hein. Et selon les circonstances, ça peut être associé à d'autres éléments. Elle peut être tranchante si elle va vite projeter, elle peut être claire, elle peut être sombre, elle peut être variable au niveau de la vitesse. Et puis après, vous avez la terre. La terre, en sanskrit, c'est prithivi. Donc la terre est lourde, solide, rigide, stable, statique, grossière, dense. C'est l'élément qui a le plus de limites extérieures. Donc en fait, l'Ayurveda va associer les cinq éléments deux par deux pour créer les trois doshas. Alors qu'est-ce que les doshas? Les doshas, ce sont les concepts d'énergie. Les trois concepts de la nature, c'est notre trame de base, hein, les trois concepts de notre propre nature. On les appelle parfois humeurs, ça fait référence donc aux humeurs du Moyen-Âge, aux humeurs selon Hippocrate, même si ça ne correspond pas, hein, c'est proche, mais ça ne correspond pas complètement. Alors, chacun d'entre nous possède en lui les cinq éléments, mais dans des proportions différentes. Et ce sont ces proportions qui vont nous donner notre tendance, notre nature profonde, notre constitution, qui s'appelle aussi Prakriti. Alors, donc si on associe, on a dit, on va prendre les éléments naturels, vous vous souvenez, les cinq éléments naturels, hein, éther, air, feu, eau, éther, on va les associer deux par deux. Donc le premier dosha, premier énergie, première humeur, si vous voulez, ça va être vata. Alors, vata, vayu, c'est l'air. Alors, Vata, en fait, va avoir deux éléments. C'est air et terre. Air et terre. Alors, si vous étiez en face de moi, je vous dirais, Vata, ça vous fait penser à quoi? L'air et l'éther. Donc, l'air et l'éther, c'est à la fois, d'après vous, je vous donne une seconde là pour y penser. C'est quoi? Air et éther. Donc, air et éther, c'est l'air, c'est le mouvement, c'est la communication, c'est aussi la fraîcheur, la légèreté, Donc, les personnes qui vont être air et terre, donc les personnes qui sont vata, vont être légers. Vont avoir une tendance à avoir facilement froid, vont avoir une tendance à être plutôt subtils, à être dans les énergies, dans la subtilité. Vont être mobiles, vont pouvoir avoir la tendance à être dispersés, à être changeants. Voilà, voilà pour Vata. Alors Vata, ce qu'on peut voir, c'est aussi Vata, air, c'est en général des gens qui vont être assez fins. Hein, on peut voir Vata, air et terre, c'est toi, soit très grand, soit très petit, longiligne. Hein, en fait, quelquefois un visage allongé, des veines apparentes, des cheveux fins, des yeux petits, bouche fine. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est une prise de poids quand il y a des déséquilibres autour de la taille. Hein, quand il y a des déséquilibres de Vata aussi, une peau sèche. Hein, il peut y avoir des ballonnements. Psychologiquement, le Vata va être enthousiaste. Hein, s'il est équilibré, il va être curieux, il va être passionné, il va être sensible. C'est le grand sensible, le Vata. Il va avoir aussi des capacités créatrices. Alors, quelquefois, on me dit, oh, non, moi, je suis pas du tout... je suis peut-être Vata, mais je suis pas du tout créatrice. Ou je suis pas du tout créateur. Mais on peut être créateur sans faire des tableaux, on peut être créateur, en fait... avoir des idées, quoi, être voilà, amener des idées, amener voilà, c'est, on peut être créateur comme ça. Un Vata déséquilibré, c'est-à-dire quand il y a trop de Vata, par exemple, hein, eh bien ça va être quelqu'un qui va être qui va avoir des insomnies, qui va parler beaucoup, qui va être très nerveux, qui va sauter du coq à l'âne, qui va être agité. Qui peut être soumis, qui peut être dépensier aussi. Hein, c'est quelqu'un de pas trop régulier en fait. Alors quand on est Vata, quand on a plus d'air et terre dans notre morphologie, dans notre être, ce qu'on peut voir c'est que si on sent qu'on a beaucoup de Vata, on peut être beaucoup plus nerveux. Hein, c'est des gens nerveux. C'est des gens aussi, les Vata, c'est des gens qui ne sont pas trop ancrés. Alors bien sûr, avec le travail sur soi, quelquefois la personne peut s'ancrer. Hein. Quelquefois les gens me disent « Ah, j'étais comme ça avant, mais maintenant, non, j'ai encore des tendances, mais je ne suis plus complètement comme ça. » Alors en général, on a la constitution par nos parents, ça vient à l'origine et elle va se transformer hein, dans la vie. Quelquefois, on va s'adapter à notre environnement et on va perdre notre constitution d'origine. Et c'est bien de la retrouver, notre constitution d'origine, dans l'équilibre. Et c'est pour ça que je prends tout un temps, quand je rencontre les gens, pour parler avec eux, prendre le temps de poser des questions précises pour voir si elles n'ont pas changé leur dosha d'origine. Donc il y a Vata, vous avez compris, air et terre. Puis il y a Pitta. Alors, Pitta, c'est feu et eau. Feu et eau, donc ça va être quelqu'un d'actif. Hein. On a vu que Vata, c'était plus l'artiste. Le Pitta, ça va être quelqu'un qui va être sensible, c'est vrai, mais qui va être toujours dans l'action. Hein. Vata est dispersé, le Pitta va être toujours en train d'agir et va être rapide. Hein. C'est le feu. Hein. Ça va être quelqu'un qui va se mettre vite en colère. Qui va être susceptible, qui va être dans l'ego au départ. Alors, comme le Vata, le Pitta va se transformer avec le temps. Hein? Mais un Pitta, très Pitta, va être facilement, va avoir des grosses colères et même après, il va être malheureux, quoi. Hein? Mais il va se mettre vite, sortir vite de ses gonds. C'est le sanguin, un peu, hein, je vous disais, si ça correspond un peu, c'est le sanguin, tandis que le Vata, ça va être le bileux. Le Pitta, en fait, il va avoir chaud. C'est le vrai Pitta, il a chaud tout le temps. Le Pitta, il est toujours dans l'action, même pendant les vacances, il faut qu'il agisse. C'est le chef d'entreprise par excellence. Donc le pitta, en général, autant le vata, c'est le très grand ou très petit, c'est le plutôt mince avec il y a la prise de poids autour de la taille. Le pitta, c'est ossature moyenne, visage en forme de cœur, quelquefois des cheveux, taches de rousseur, des cheveux fins. On reconnaît le pitta parce qu'il a un regard très perçant. Hein. Quelquefois une bouche bien dessinée, un sommeil profond et réparateur, alors que le Vata, dont je vous ai parlé tout à l'heure, beaucoup d'insomnie. Le Pitta, en revanche, va être sensible à alors brûlure d'estomac, diarrhée quelquefois, hypertension. Il peut être clair, pertinent, intuitif, volontaire, organisé, perfectionniste, responsable, persévérant, leader. Il peut avoir un humour caustique, un talent oratoire. Il aime prendre des responsabilités, il aime gérer. Un pitta déséquilibré, il va être colérique, irritable, orgueilleux, fier, tyrannique, dominateur, jaloux. Goût pour la vengeance, égocentrique. Donc voilà pour le pitta. Hein? Et puis on va voir après avec les gunas. Et ça, c'est à l'origine. Et puis après, on peut atténuer en fonction de notre mode de vie, en fonction de notre alimentation. Et puis enfin, vous avez le kapha. Alors le kapha, c'est l'air et la terre. Donc bien sûr, va être beaucoup plus ancré que le vata, hein, qui est dans les sphères un peu supérieures. Tandis que le kapha, il est ancré. Hein, il a une ossature lourde. Le kapha, il va avoir tendance à l'embonpoint. Une des articulations très souples, tandis que le Vata, il a des problèmes d'articulation, un visage rond, une peau douce, blanche, des cheveux lourds, hein, une belle chevelure en général, des yeux grands, brillants, un regard de biche, hein, une bouche pulpeuse, un nez large et rond, poitrine forte, faible transpiration, un sommeil lourd. Le Kapha est beaucoup plus lent. C'est encore quelqu'un qui est dans la fraîcheur. Hein. En général, quand je vois quelqu'un, je lui demande, ma première question, c'est vous avez plutôt chaud ou plutôt froid? Comme ça, tout de suite, je vois si c'est quelqu'un qui est pitta, s'il a tout le temps chaud, ou si quelqu'un qui a plutôt frais, donc vata et kapha. Puis en fonction de ce que je vois, je vais voir très vite si c'est plutôt vata ou kapha. Mais comme je vous dis, je me méfie quelquefois, et, bon, j'ai des bonnes premières impressions, mais je travaille quand même un petit peu pour voir si la personne s'est adaptée à son environnement et a perdu sa constitution de base. Puis après, donc le kapha, c'est tendance à l'embonpoint, surtout aux fesses, aux cuisses, cellulite, peau grasse, luisante, problème de ronflement, problème ORL. C'est quelqu'un de très équilibré, de calme, de patient, de serein. Qui va doucement. Hein. Si vous avez un pitta et un kapha ensemble, en général, le pitta, lui, il va toujours vite. Même intellectuellement, il va très vite. Le kapha a besoin de prendre son temps. Il a une mémoire d'éléphant, le kapha. Il est méthodique, il est fidèle, il est généreux, dévoué, indulgent. Mais il peut être mélancolique, il peut être entêté, il peut être apathique, trop lent, paresseux, sans ambition, renfermé. Donc voilà pour les doshas. Et puis après, il va y avoir, en fonction de ces vata, pitta, kapha, hein, vous avez bien compris, air et terre, pitta, feu, eau, kapha, eau et terre, ces constitutions, on va les associer, en fait. Pour faire la constitution, on va associer donc les éléments. Et on va avoir plusieurs constitutions. On peut avoir une constitution vata, pitta, kapha, mais on peut avoir une constitution mixte où on associe par exemple vata, pitta, ou vata, kapha, ou pitta, kapha. Ça veut dire que la personne va être avant tout vata, mais va pouvoir avoir un peu de pitta. C'est-à-dire que en fonction aussi de son environnement, par exemple, si elle est, par exemple, le stress est très mauvais pour Vata, très mauvais pour Pitta. À la limite, Kapha le gère peut-être un peu mieux. L'ordinateur, très mauvais pour les trois doshas. Donc, on voit qu'on a Vata, Pitta, Kapha, puis après, on peut avoir Vata, Pitta. On peut avoir Vata Kappa ou Pitta Kappa ou très exceptionnellement les trois doshas. Très exceptionnellement. Les trois doshas, alors c'est des gens un petit peu qui sont un peu dispersés, qui changent beaucoup. Hein, c'est-à-dire où on a Vata, Pitta et Kappa en proportion équivalente. Alors déjà, je pense que chacun... Vous pouvez voir si vous êtes plutôt air et terre, si vous êtes plutôt pitta, feu, si vous êtes plutôt kappa, lent, terre, ancré. Alors vous allez me dire, ah oui, mais moi j'ai changé. Oui, c'est vrai. Vous allez me demander, est-ce qu'on peut changer la constitution? Alors on peut la changer, on peut l'influencer, mais on a toujours cette constitution de base. Mais on peut l'influencer. L'important, c'est d'avoir l'équilibre de cette constitution de base. Et quand on connaît sa constitution de base, c'est important. Bien sûr, il va y avoir une nourriture qui va apaiser, par exemple, Pitta. Tout ce qui est frais va apaiser Pitta. Va apaiser Vata. Tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est chaud va apaiser Vata. En général, pour l'Ayurveda, il est bon de manger chaud. Hein, ça, pour les trois doshas, à la limite. Alors, vous allez me dire, mais comment gérer quand on est à la fois Vata et Pitta? On a toujours un dosha, donc un système d'énergie prioritaire. Donc après, c'est lui qu'on va essayer de réguler. Quand des gens viennent me voir, je regarde leur... quand je fais des massages ayurvédiques, je regarde leur constitution. Si je vois un Vata en excès, mon massage va... Je ne veux pas faire le même massage, bien sûr, pour Vata, Pitta et Kappa. Donc, pour Vata, il va essayer de calmer le jeu. Il va essayer de les ancrer. Hein, donc, ça va être un massage pour ancrer très en profondeur, très lent et très en profondeur. Un massage pour Kappa, ça va être un massage pour donner de l'énergie, au contraire. Hein. Donner de l'énergie et les rendre plus subtils. Alors, ça va être un massage, bien sûr, d'essai-effleurement, mais en même temps, bon, toujours avec, vous sentez une poigne quand même, mais plus léger, hein, pour essayer de les monter un petit peu, quoi. Donc, voilà pour la constitution. Hein. Alors, la constitution, on dit prakriti en sanskrit, et si notre prakriti, ce qu'on cherche, c'est l'équilibre, est équilibré, donc tout va bien. Et s'il y a un déséquilibre, donc là ça va être la vrikriti, et à ce moment-là, c'est là que s'installe, donc on parle pas de maladie, c'est là que s'installe des influences négatives, quoi. Et c'est là que vous pouvez vous sentir mal, hein, et que vous pouvez développer des symptômes, je dirais. Alors après, je voudrais aborder quelque chose qui me paraît essentiel, c'est les gunas. Ce sont les états mentaux. Les états mentaux, c'est-à-dire que, donc là, on a vu les doshas, hein, les trois constitutions. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est, on a vu les humeurs dans les trois constitutions. Alors, j'ai simplifié, hein, ça peut... Parce qu'après, il y a des sous-humeurs, si vous voulez. Hein, mais ça, on verra ça au fur et à mesure. Là, ne demandez-moi pas tout d'un seul coup. Alors, ce que je ne vous ai pas dit quand même, avant de passer au gunas, c'est que Vata correspond plus au bas du corps. Hein. C'est vraiment le bas du corps. Tandis que Pitta, c'est le milieu, et Kappa, le haut du corps. Donc, pour Vata, vous allez avoir, c'est-à-dire le gros intestin, il ne faut pas que je me trompe. Pour Kappa, ça je suis sûre, c'est les poumons, tout ce qui est en hauteur. Hein. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va revenir, c'est ce que je voulais vous parler, c'est les gunas. Alors, les gunas, vous avez trois gunas. Les gunas, c'est les états mentaux. Les états mentaux, c'est sattva, rajas et tamas. Donc, c'est-à-dire, C'est en fonction de votre nourriture, de votre style de vie. Sattvic, ce qui est sattvic, c'est tout ce qui va vous élever. Par exemple, si vous essayez d'avoir une nourriture équilibrée, une nourriture fraîche, une nourriture vivante, bien sûr, pas d'être vivant. Hein. Si vous mangez des êtres vivants, vous prenez la souffrance de l'être vivant quand vous l'avez tué. Donc, en Ayurveda, c'est vrai, par exemple, dans l'ashram, on est vraiment végétarien, quoi. Alors après, vous allez me dire, oui, mais il y a les plantes. Oui, on mange les plantes, ça c'est sûr. Mais voilà. Alors après, on peut aller plus loin encore, hein, avec la nourriture pranique. Alors, sattva, c'est une nourriture vivante, une nourriture fraîche. Sattvic, c'est toutes les actions où on met de la conscience. Donc, si vous êtes sattvic, si vous vous efforcez d'aller vers plus de lumière, de plus de conscience, votre vata, il va être, votre pitta et votre kapha vont être dans la lumière. Donc, votre vata, il va être créatif, il va être enthousiaste, il va avoir les qualités du vata. Votre pitta, il va être sagesse, compréhension, humilité, qualité du pitta. Kapha, sattvic, va être dans l'amour, la compassion, le dévouement. Hein? On voit beaucoup de sages, donc en général, on va vers le sattvic, hein, par exemple le yoga, la méditation, le tai chi, tout ça sont des activités sattviques. Et on voit les grands sages, donc il y a beaucoup de grands sages qui sont kapha et pitta, hein, kapha dans l'amour, la générosité, tout ce qui est l'humanisme, si vous voulez, pitta, hein, dans l'énergie. Mais sattvic. Après, donc il y a encore trois gunas, comme il y a trois doshas, ça va toujours par trois, vous avez rajasic. Alors rajasic, c'est tout ce qui est l'agitation. Alors, si vous rajoutez de l'agitation à vata, ça va faire l'hyperactif. Hein, ça va faire le paranoïaque même. À pitta, ça va faire celui qui est dans la compétition, si vous êtes rajasic. Compétition, rivalité, besoin de pouvoir. À kapha, ça va être celui qui va avoir très attaché, obsession, désir de possession. Alors, rajasic, ce qui est rajasic, c'est tout ce qui amène beaucoup, beaucoup d'énergie. Hein, par exemple, ce qui va être rajasic, ça va être la viande, peut être rajasic. Hein, les aliments pas trop frais peuvent être rajasic. Beaucoup manger, rajasic. En Ayurveda, on vous conseille de manger peu, hein, de manger deux fois par jour. Pourquoi trois fois? On mange beaucoup trop, quoi. Essayez de réduire quelquefois. Il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent « Regardez, j'ai un gros ventre, pourquoi j'ai un gros ventre ?» etc. Je leur dis « Écoutez, réduisez simplement les portions. Hein, » ou « Réduisez, mangez pas trois fois par jour. » Ce qui est important dans l'Ayurveda, c'est de bien digérer. Donc, espacez vos repas. Donc, trop manger, c'est rajasic. Hein. Puis après, le dernier, c'est tamasic. Alors, tamasic, c'est vraiment être glauque, quoi, être tiré vers le bas. Donc, tamasic, ce qui est tamasic, c'est l'alcool, c'est la cigarette, c'est pas dormir, c'est dans les excès. Alors, ça amène la dépression, l'absence de scrupules pour vata. Ça amène pour pitta la haine, la jalousie, l'insatisfaction, la destruction pour pitta. Pour kapha, la perversion, la dépression, le laisser-aller, la débilité. Donc, ça, vous voyez que sur les gunas, on a vraiment un pouvoir, c'est-à-dire qu'on peut choisir notre alimentation, on peut choisir notre style de vie. Donc, vous avez bien compris, il y a les doshas et il y a les gunas. Les gunas qui sont en fonction de notre style de vie. Et ce matin, et puis style de vie est en fonction aussi, surtout, de notre nourriture. Alors, un jour, je vais travailler, à la limite, je vais faire une émission que sur la nourriture. Parce que pour la nourriture, dans l'Ayurveda, c'est essentiel. La nourriture, par exemple, pour le médecin ayurvédique avec qui, dans la clinique dans laquelle j'étais, le médecin ayurvédique que j'ai suivi, eh bien, lui, il soigne par la nourriture. Non, il soigne par la nourriture. Donc, La nourriture, c'est bien sûr, c'est important. Déjà, ce que j'aime dans l'Ayurveda, c'est des principes de base de bon sens. Hein? Donc, comme je vous ai dit, de manger frais, de pas, par exemple, à l'ashram, il n'y a pas de frigidaire. Pas garder de la nourriture pendant 8 jours et prendre cette nourriture. En fait, dans l'ashram, eh bien, on fait de la nourriture tous les jours. Et on jette ou on ne gêne pas. On donne aux animaux la nourriture qui n'est pas utilisée. Mais en général, on n'a pas trop. Parce qu'on essaye de savoir combien de personnes. Et on a toujours pour les invités, pour les gens qui viennent à l'improviste, bien sûr. Il y a le sens de l'accueil en Inde. Mais on n'a pas trop de nourriture en plus qu'on va jeter. Parce qu'en fait, on sait que si. On utilise la nourriture au jour le jour. Si on n'utilise pas la nourriture le jour même, la nourriture qui est cuite, elle va aller pour les animaux. Elle va pas être servie le lendemain. Et ça, c'est un principe de base. Voilà. Donc ça vous paraît peut-être un peu difficile au départ, mais en même temps, écoutez, ça évite tellement les maladies. Donc c'est tellement important, quoi. Alors quand j'ai appelé le Swami ce matin, il m'a dit. Je lui dis, qu'est-ce que je vais parler pendant 1 heure pour présenter l'Ayurveda. D'après toi, qu'est-ce que tu as envie de dire? Il m'a dit, alors il avait très peu de temps. Après, il m'a dit, la prochaine fois, je parlerai plus avec toi, donc avec vous. Il m'a dit, ce qui est important, c'est une bonne nourriture. Voilà, right food. Bonne nourriture avec des bonnes combinaisons. Donc ça, je vous en reparlerai. Hein, des bonnes combinaisons. En fonction de votre constitution. Il va y avoir de la nourriture qui va être mauvaise pour certains, mais on peut imaginer, par exemple, si on prend des épices, les épices vont être bien sûr mauvaises pour Pitta. Hein. Une nourriture trop. Par exemple, Vata, lui, il oublie la nourriture. Donc, il va falloir, ce qui va être important pour lui, c'est d'avoir une nourriture. Qui lui tiennent aux ventes, hein, une nourriture comme des légumineuses, une nourriture qui ne soit pas trop légère. Alors, après la nourriture, donc la nourriture, comme je vous dis, je pourrais en parler 1 heure. Hein. Alors, en même temps, du bon sens, et en même temps aussi, par exemple, aussi mettre de l'amour. C'est-à-dire que si vous préparez un repas, si vous n'êtes pas content de préparer un repas, ne le faites pas. C'est pas la peine. Ça va être mauvais pour les gens qui vont manger. Ça, c'est très très important. À l'ashram, c'était très important d'avoir envie de faire la nourriture et d'y mettre de l'amour. Autrement, on ne fait pas la nourriture. Après, le repas, eh bien, en Inde, on mange en silence. Alors, en Occident, on ne mange pas en silence, mais. Ce que j'ai beaucoup entendu par les médecins ayurvédiques, surtout, n'ayez pas de grandes discussions pendant les repas. Hein, ne vous disputez pas pendant les repas. À la limite, il vaut mieux pas manger que de se disputer. Que ce soit dans l'amour, que ce soit dans le bonheur, dans la joie. Hein, ingérer une nourriture dans le bonheur et la joie. Autrement, c'est pas la peine de manger. Et prendre conscience de ce qu'on mange. Prendre le temps de manger, prendre le temps de mastiquer. Alors, Swami disait, parce que les Indiens, je trouve qu'ils mangent très vite, de ne pas manger trop vite, mais pas trop lentement non plus. Hein, manger à un rythme normal. Et puis, en conscience. Ça, c'est très, très important. Et puis, voir les aliments qui sont mauvais pour nous. Voilà. Difficile à digérer. Donc, pour Vata ou Pitta, voilà, faire attention à ça. Après, ce qui est important, c'est faire de l'exercice un petit peu tous les jours. Un petit peu d'exercice tous les jours. Ça, c'est très très important. Hein? Et puis, on verra si j'ai le temps. En fait, il y a une routine aussi à avoir. Hein? Et dans l'Ayurveda, dans le Charaka Samhita, eh bien, la routine, elle est vraiment développée. Hein? Qu'est-ce qui est important pour à faire le matin, voilà. Et ça, si j'ai le temps, je vous le donnerai aussi. Donc, de l'exercice tous les jours. De la marche, pas des exercices forcément violents, mais de l'exercice tous les jours. Le massage est considéré comme, pour ceux qui n'ont pas le temps de faire de l'exercice, massage peut remplacer. Parce qu'on travaille sur tous les muscles. Le massage, nous, on n'est pas dans la société du massage, mais c'est essentiel. En Inde, les mères massent leurs enfants. Je conseille à toutes les mères de masser leurs enfants. Moi, je sais que je l'ai fait avec ma fille et c'est vrai que ça développe beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Et puis, et le massage, on peut passer beaucoup de choses par le massage. Mais en même temps, quand on masse, il faut bien se centrer. Parce que faire attention par qui vous êtes massé. Quelqu'un trop agité, quelqu'un avec un vata déséquilibré, c'est dangereux. Donc, c'est important, quand on est masseur, d'avoir une très bonne éthique. D'avoir une éthique, de se recentrer, de se protéger avant de masser, et puis de masser dans l'amour, bien sûr. Et puis de se connecter à quelque chose, bien sûr, on n'est que passeur. Ça, c'est valable pour toute technique d'énergie. Après, Swami m'a dit d'avoir une discipline de vie. C'est vrai que c'est ce que je vais vous donner tout à l'heure. Nacharya, je vais vous donner ça tout à l'heure. Donc, une bonne discipline de vie. Et puis, après aussi, en fait, manger à certaines heures, de se lever de bonne heure. Par exemple, de manger tôt aussi le soir pour bien digérer avant de s'endormir. Donc, ça aide pour le sommeil. D'avoir aussi une sexualité respectueuse. Dans la conscience, respectueuse de soi et respectueuse des autres. Donc tous ces critères sont essentiels dans l'Ayurveda. Alors je voudrais terminer, comme j'ai le temps, par vous parler de Dinacharya. Alors Dinacharya, c'est une routine journalière. Et ça, on peut le voir dans les textes. Donc ce qui nous est dit, c'est donc tous les jours, et ça va vous aider. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oh là là, ça va pas, je suis pas bien. Alors déjà, ils ont trop d'idées, trop de pensées. Alors moi, je les ramène tout de suite dans le corps, dans la respiration. Et puis, je leur dis, qu'est-ce qui se passe dans vos journées? Comment vous passez vos journées? Et donc, je leur donne Dinacharya. Alors, ce qui nous est dit, ça aide après à se sentir mieux. Et c'est vrai, quand j'étais à l'ashram, je peux vous assurer que j'étais vraiment très, 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 très bien. Vraiment, j'avais une pêche d'enfer. Donc, on se levait tôt le matin, mais ce n'était pas difficile. On n'avait pas besoin de sommeil beaucoup parce qu'on faisait beaucoup de yoga, de méditation. On vivait en plein air. Aussi, d'être dans la nature. Alors ça, je ne l'ai pas assez dit. Allez dans la nature, allez vous promener dans la forêt, prenez le temps de respirer. Le bonheur des montagnes, le bonheur de la forêt. Et ça, c'est essentiel pour Vata. Au lieu d'être devant l'ordi, allez dans une forêt. Vous allez voir si vous vous sentez nerveux, stressé. Hop, votre Vata, il va diminuer. Alors, revenons à Dinacharya. Alors, premièrement, se lever tôt. Si possible, 2 heures avant le lever du soleil. Donc, ce qui fait qu'en Inde, on se levait à 4h, 4h30. Donc là, les idées sont claires, le corps est léger, c'est le moment idéal pour méditer. Il est beaucoup plus facile de se lever et de méditer que dans le milieu de la matinée. Là, c'est Kapha qui est prédominant dans le milieu de la matinée, tandis qu'en se levant, c'est Vata. Donc, on est léger, on est dans la spiritualité. Et le mieux, j'ai fait quelquefois des retraites en Inde où j'ai été dans d'autres centres, je suis restée essentiellement dans l'ashram, parce que j'étais venue pour découvrir le yoga, donc j'ai fait des retraites intensives de yoga avec 10 heures de yoga par jour, et on se levait à 3 heures le matin. Alors vous allez me dire, c'est fou. Ouais, c'est fou, mais en même temps, on a du temps après, c'est magique, quoi. Et on se voit le lever du jour, et dans le yoga, dans la méditation, ça donne une énergie extraordinaire. Puis, ce qui est important, après donc se lever à 2h du matin, donc on boit alors soit de l'eau cuivrée. Alors, l'eau cuivrée, c'est de l'eau qui est dans des ustensiles en cuivre, de l'eau plutôt tiède, hein, si vous ne mettez pas de l'eau dans des ustensiles en cuivre. Alors, pourquoi mettre de l'eau dans des ustensiles en cuivre? Pour réharmoniser les doshas, hein, c'est toujours le souci. Ou de l'eau chaude ou tiède. Hein. Puis après, les éliminations des selles, des urines. Après, alors on peut pratiquer gandouche. Alors, gandouche, c'est quoi? C'est de mettre de l'huile de tournesol dans la bouche et puis, vous savez, de faire des gargarismes. Et puis après, de rejeter de l'huile. Hein, ça, c'est pour la bonne hygiène de la bouche. Alors, quelquefois, on dit en Inde, l'hygiène et tout ça, mais ils ont une hygiène personnelle, quelquefois, beaucoup plus grande que nous. Hein. Ils ne parlent jamais le matin sans s'être lavé la bouche, la langue, les dents, les yeux, le visage, le nez. Non, on ne va pas adresser la parole à quelqu'un avant ça. Puis un automassage de 5 minutes, 30 minutes si vous pouvez. Et puis des exercices physiques et quelques postures de méditation. Et quelques postures de yoga et de la méditation. Après, prendre une douche tiède, hein, fraîche selon la saison. La douche est beaucoup plus favorisée que le bain, bien sûr, pour évacuer les toxines. Et déjà là, vous avez un bon départ. Après, pratiquer les respirations. Hein, là, moi, j'insiste dans mes cours de yoga sur la respiration, respirer tranquillement, hein, qui aide à l'état de méditation, de prière. Puis, prendre le petit déjeuner. Alors, le petit déjeuner, bien sûr, nous, en Occident, c'est vraiment sucré. Tandis qu'en Inde, en fait, c'était notre premier repas. En fait, en Inde, on se fait, donc je vous ai dit, bon, dans des retraites, c'était 3h, 3h30, autrement, c'est 4h. 4h30, on commence à 5h, donc la méditation, le yoga, et on prend son propre petit déjeuner vers 10h, 10h30. Hein. Et entre-temps, on se relaxe, on a pris de l'eau chaude, etc. Puis après le petit déjeuner, on prend soin de ceux qui nous entourent, et puis on s'habille, et on fait attention aux couleurs aussi. Hein. Les couleurs sont très importantes. C'est-à-dire que moi, je vois des gens qui s'habillent toujours en noir. Eh bien, le noir, c'est triste, c'est pessimiste, c'est... Bon, préférez d'autres couleurs. Alors, c'est vrai que jaune et orange sont des couleurs chaudes. Donc, couleurs chaudes, pour Pitta, c'est pas très, très bon. Hein, ça augmente Pitta. Donc, le rouge, jaune, orange va stimuler Pitta. Mais ça va être bon pour Vata. Qui a tendance quelquefois à être un peu tristouné, donc jaune, orange, rouge, tout ça, ça stimule le kapha, ça stimule kapha et ça stimule vata aussi. Hein? Le vert va diminuer vata. Hein? C'est vert, jaune et bleu vont diminuer vata. Bleu et violet vont être des couleurs refroidissantes. Ça va être bon pour Pitta. Donc voilà. Donc au niveau des couleurs, vous pouvez trouver ça sur le livre de l'Ayurveda de Judith Morrison. Mais autrement, il y a des très bons livres comme David Frawley, F-R-A-W-L-E-Y, qui vous explique bien ce qu'est l'Ayurveda. Aussi le livre qui est très bien fait, le grand guide de l'Ayurveda de Kiran Vyas. Hein. Donc voilà. Alors, il me reste 2 minutes. J'espère que j'ai été claire, hein, pour vous, durant cette heure. Je vais vous souhaiter de très très bonnes fêtes. Hein. Donc, dans l'Ayurveda, c'est pas la restriction, hein, c'est la joie. Parce qu'il y en a certains qui me disent « Oh là là, mais tu manges pas de viande !»« Oh là là, mais toi, tu te lèves très tôt le matin !» etc. Mais ça apporte beaucoup de joie. Hein, ça apporte beaucoup, beaucoup de joie. Ça, c'est l'essentiel. C'est-à-dire, on se sent bien, déjà. Hein, moi, je n'ai pas de médecin référent. J'ai pas vu de médecin depuis des années, des années, des années. Voilà, et dès que, par exemple, j'ai pas de rhume, hein, ça fait, je sais pas combien de temps que j'ai pas eu de rhume, mais s'il y avait quelque chose qui se profilait comme ça, eh bien, je me mettrais en nourriture pranique, c'est-à-dire, j'arrêterais de manger, quoi. Et puis, voilà, donc ne croyez pas que ce soit des frustrations, au contraire, c'est mettre de la conscience dans ce qu'on fait. Donc quand on met de la conscience dans ce qu'on fait, on met de la joie dans ce qu'on fait, de la conscience pour soi et puis pour les autres. Et puis quand on pratique le yoga, quand on pratique la méditation, eh bien ça ouvre, ça permet d'être connecté à des choses subtiles en nous. Et puis vous allez être étonné de tout votre potentiel. On n'utilise pas tout son potentiel. Et l'Ayurveda, justement, nous aide à découvrir le côté médium chez nous. On est tous des médiums, hein. On est tous des êtres sensibles. On est tous des êtres beaucoup plus évolués qu'on ne peut l'imaginer. Quelquefois, on se rabaisse par l'alcool, par la drogue, par plein de choses, par aussi la façon dont on parle. Hein, la nourriture, c'est partout. C'est aussi la façon, les mots qu'on emploie. Hein, les mots qu'on emploie sont essentiels. Hein, avoir un langage dans la conscience. Donc voilà, je crois que je vais terminer cette émission maintenant. J'ai été très heureuse d'être avec vous. Et puis je vais vous dire au mois prochain, en janvier. Donc en janvier, je serai encore en France. Mais en février, je serai en Inde. Et je voudrais faire l'émission en Inde. Alors là, on va voir si c'est possible d'avancer en Inde un peu parce qu'il y a 2 ou 3 heures de décalage. Donc là, on est tard dans la nuit. Voilà. Bonne fête de Noël, du Nouvel An. Voilà. Et puis, n'oubliez pas d'aimer, bien prendre soin de vous. Au revoir, namasté et à très bientôt.